Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique durant laquelle nous expliquons ce que la Bible enseigne sur des thèmes touchant notre quotidien.
La plupart d'entre nous passons nos journées occupées à travailler. Aussi, il nous semble important de découvrir ce que la Bible nous apprend à ce sujet. Jean-Marc est présent parmi nous pour nous conduire dans nos réflexions et aujourd'hui, il nous parlera de quelques proverbes bibliques traitant ce thème.
Bonjour Jean-Marc et merci d'être de retour.
Merci Yann et bonjour à tous.
Alors, nous venons d'annoncer notre sujet pour aujourd'hui, le travail à travers les proverbes bibliques. Mais tout d'abord, il serait bon d'écouter certains de ces proverbes.
Oui. Aujourd'hui, notre discussion portera sur l'étude d'un personnage, nommé le paresseux, qui apparaît dans le livre des Proverbes. Nous le rencontrons pour la première fois dans le chapitre 6, du verset 6 au verset 11. Écoutons ensemble la lecture de ce texte.
« Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. »
Rappelez-nous l'objectif du livre biblique des Proverbes.
Ce livre dévoile la sagesse que l'Éternel a mise à notre disposition, une sagesse qui nous permet de bien réussir notre vie sur le plan moral, une sagesse aussi qui rend notre relation avec Dieu plus merveilleuse encore. Ainsi, les Proverbes identifient les conduites à éviter, mais ils nous encouragent de même à poursuivre la droiture, à rechercher ce qui est juste. Le personnage appelé le paresseux représente un piège à éviter. Le paresseux, par sa conduite, ne se comporte pas en sage. Son attitude s'avère être de la folie.
Dites-nous en quoi le paresseux représente-t-il un contre-exemple? Pourquoi sa conduite est-elle un piège à éviter?
Le paresseux dépeint toute personne refusant de travailler, toute personne préférant passer ses journées inutilement, tout individu ne disposant pas de discipline suffisante pour accomplir les responsabilités que l'Éternel lui confie. Nous avons appris au début de cette série que l'Éternel a créé l'homme et la femme, entre autres, pour travailler. Le travail fait partie de notre nature, de notre identité. Ainsi, si nous refusons de travailler, nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu pour nos vies. De plus, l'Éternel a instauré le mariage et la famille au sein desquels il accorde à chacun une responsabilité pour le bien-être de tous. Ainsi, si l'un des membres d'une famille, un époux ou une épouse, néglige ses responsabilités en se laissant aller à la paresse, son attitude va à l'encontre de la volonté de Dieu pour sa vie.
Merci Jean-Marc. Nous comprenons ainsi que celui qui est paresseux s'oppose en fait à l'Éternel. Cependant, les proverbes nous montrent que la paresse entraîne dans son sillage des conséquences assez graves.
Tout à fait. Les proverbes nous avertissent. Celui qui n'est pas prêt à assumer sa place dans le monde du travail tombera tôt ou tard dans la pauvreté. Il est évident que si l'on ne travaille pas, on ne peut subvenir à ses besoins. Or, cette conséquence dramatique, la pauvreté, touche non seulement celui qui se complaît dans la paresse, mais aussi les autres membres de sa famille qui dépendent de lui ou qui l'ont à charge.
Je comprends vos propos, mais il est nécessaire d'ajouter que la paresse ne représente pas la seule cause de la pauvreté.
Vous avez raison, Yann. La paresse peut être l'une des causes de la pauvreté, mais il en existe beaucoup d'autres encore. La maladie, les injustices liées à des salaires insuffisants, le chômage et les phénomènes naturels tels que les périodes de sécheresse.
Vous venez de mentionner le chômage et une fois de plus, il ne faut pas croire qu'un chômeur est forcément paresseux.
C'est vrai, Yann. La plupart des chômeurs voudraient travailler. Ce ne sont pas des hommes ou des femmes qui refusent de travailler, mais des personnes qui ne parviennent pas à trouver un emploi, et ceci malgré leurs constantes recherches. Il est vrai que certains chômeurs peuvent abuser des aides reçues de l'État et se contenter ainsi de leur situation, mais il s'agit là d'une minorité. Il ne faut pas déduire qu'une personne au chômage, qu'elle est paresseuse, simplement parce qu'elle se trouve sans travail.
Merci Jean-Marc. Revenons alors au proverbe lu tout à l'heure. L'auteur incite le paresseux à observer les fourmis. Pourquoi ?
Il espère que, fort de leur exemple, le paresseux se corrigera et se mettra à travailler de façon responsable. Les proverbes nous enseignent que la sagesse de Dieu se révèle à travers le monde naturel, si seulement nous prenions le temps de l'observer.
Et que pouvons-nous alors apprendre des fourmis ?
Tout d'abord, les fourmis sont travailleuses. Elles passent leur journée à chercher de la nourriture. Elles chargent les graines trouvées sur leur dos pour ensuite les porter à la fourmilière. De plus, elles se montrent prévoyantes. Elles profitent des périodes d'abondance pour emmagasiner des réserves qui seront disponibles par temps de pénurie. Enfin, les fourmis sont responsables. Elles effectuent leurs devoirs d'elles-mêmes. Elles suivent leur propre initiative. Aucun chef ni surveillant ne les contraint ni ne les pousse à accomplir leurs tâches quotidiennes.
Et comment appliquer ces leçons à nos propres vies ?
Ces trois qualités, être travailleur, être prévoyant, être responsable, sont importantes si nous voulons réussir nos vies, si nous voulons réussir sur le plan professionnel. Or, ces traits de caractère représentent trois facettes de la sagesse divine. Le travail n'est pas forcément agréable. En fait, il est souvent désagréable. Toutefois, l'homme sage ne se laissera pas décourager par les côtés négatifs du monde du travail. Il reconnaît en effet que le travail est essentiel pour subvenir aux besoins de sa famille. De plus, il est important d'être prévoyant. Certains travaillent juste suffisamment pour assurer leurs besoins les plus immédiats. Cependant, il est sage, quand cela nous est possible, de travailler de façon à pouvoir mettre de l'argent de côté afin d'être en mesure de faire face à d'éventuels problèmes pouvant advenir. Il est également sage et préférable, lorsque nous effectuons notre travail, d'être responsable et de ne pas avoir besoin de quelqu'un constamment auprès de nous pour nous pousser à bien le faire. Certains disposent en effet d'un emploi, mais cherchent à en faire le moins possible. Cette attitude est un autre exemple de paresse. Celui qui, sur son lieu de travail, ne remplit pas ses responsabilités, triche envers son employeur. Cette attitude déplaît à l'Éternel, et elle peut être à la longue cause de tensions entre collègues, et la personne qui se montre paresseuse peut finir par être renvoyée.
Merci Jean-Marc pour ces avertissements et exhortations. La paresse représente une source de tentation pour certains. Nous devons en reconnaître les dangers et apprendre qu'exercer un travail consciencieux est la voie de la sagesse.
Nous poursuivrons notre série sur le travail la prochaine fois. À présent, nous allons méditer sur quelques paroles de Jésus trouvées dans l'Évangile de Luc.
En fait, tout comme la dernière fois, nous allons réfléchir sur les vives critiques que Jésus a adressées aux pharisiens. Et nous nous pencherons plus particulièrement sur l'une d'entre elles, dont les paroles devaient être certainement dures à entendre.
Mais quelle est donc leur portée pour nous aujourd'hui?
Jésus, en remettant en question l'attitude des pharisiens, désirait leur venir en aide. Il voulait les amener vers une meilleure compréhension de la foi. Il souhaitait les libérer des habitudes qui les empêchaient de vraiment connaître l'Éternel et les priver de sa paix et sa joie. Malheureusement, les mêmes pièges peuvent nous guetter aujourd'hui encore, et notre désir en reprenant ces paroles de Jésus est d'amener les chrétiens à croître spirituellement, tout en ayant les regards fixés sur le Seigneur. Écoutons alors cet extrait de l'Évangile de Luc où Jésus s'adresse aux pharisiens. Il s'agit du chapitre 11, verset 43.
Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques.
Ce verset reflète, de façon très réaliste, un aspect de la nature humaine. Il exprime notre désir d'être vu par les hommes et d'être bien considéré par eux. Il parle de la soif que nous pouvons avoir de jouer d'une bonne réputation, de recevoir toute la reconnaissance possible, les compliments de nos semblables et de bénéficier des positions d'honneur nous mettant en valeur. Toutefois, se servir de la pratique d'une religion comme tremplin pour parvenir à ses fins est une erreur. Les pharisiens étaient tombés dans ce piège et il est possible aujourd'hui encore de succomber à cette tentation. Les pharisiens pratiquaient leur acte de piété de façon très visible. Nous apprenons dans les évangiles qu'ils aimaient prier au coin des rues. Lorsqu'ils jeûnaient, tous le savaient, et leur offrande ou dîme n'était pour personne un secret. Pourquoi accomplissaient-ils ces actes à la vue de tous? Parce qu'ils voulaient être remarqués, parce qu'ils voulaient gagner l'estime du peuple. Ils recherchaient la gloire et l'honneur. Ils aspiraient à apparaître bons et justes, jusqu'à se vanter de leur supériorité. Quant à nous, nous devons nous poser la question que voici. Est-ce pour afficher une bonne apparence que nous pratiquons une religion? Est-ce pour gagner l'admiration des hommes que nous devenons religieux? Qu'est-ce qui importe le plus pour celui ou celle qui cherche, par-dessus toute autre chose, l'approbation des hommes? Une personne œuvrant pour demeurer au centre de l'attention désire être la plus importante parmi toutes. Elle aspire à attirer les regards sur elle. Ses mots préférés sont souvent « moi » et « je ». Or, selon la Bible, marcher avec Dieu, connaître la vraie foi, s'accompagne d'humilité. L'humilité est l'attitude qui reconnaît que ce n'est plus moi la personne la plus importante, mais plutôt l'Éternel. Une personne humble ne recherche pas sa propre gloire. Elle cherche à mieux connaître Jésus. Une personne remplie de foi et d'humilité ne tente pas d'attirer le regard de tous sur elle, mais elle les dirige plutôt vers l'Éternel. Une personne humble ne se met pas en avant, mais elle vante les mérites du Seigneur Jésus. Une telle personne prie parce qu'elle désire passer du temps avec Dieu. Elle donne de son argent discrètement pour l'avancement du royaume de Dieu. Une telle personne mène une vie juste, une vie intègre, parce qu'elle aspire à honorer l'Éternel.
Merci Flavien pour cette leçon importante.
Oui, ces paroles me rappellent celles que Jean-Baptiste a prononcées au sujet de Jésus. Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit.
Sur ce, nous devons vous quitter, et nous vous disons au revoir et à la prochaine.
Au revoir, et que Dieu vous bénisse.